Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Donc, c'est ça, le pape est arrivé, nous sommes contents. Mais là, nous sommes le samedi et le pape se rend au palais présidentiel, toujours avec le président, où il rencontre les personnalités politiques. Les gens sont heureux, qu'est-ce que vous voulez? Le pape François dégage une telle énergie, là, énergie dans le sens positif du terme, une énergie humaine de fraternité, de convivance, d'amour, une sorte de libération de ce qu'on a besoin pour être ensemble. Il n'y a pas de clinquant, là, c'est pas figé. Au contraire, alors les gens sont là, le personnel politique, et le discours du président est exceptionnel dans la reconnaissance de la personne du pape François. Il le qualifie de visionnaire. Le Saint-Père écoute tout cela simplement, avec humilité. Alors le pape le remercie et il exprime qu'il est venu comme un fils qui vient voir sa mère. Alors là, il n'y a pas d'équivoque, il est venu à Mexico pour saluer, comme un fils, sa mère, qui est Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques. Il dit qu'il est venu comme missionnaire de la miséricorde. Et on va le voir tout au long de son parcours. Missionnaire de la miséricorde, envoyé par Dieu, envoyé par le Père aux nations, au monde. Les gens sont vraiment touchés. D'entendre cet homme, ce pape argentin, qui se trouve dans leur pays, au Mexique, et cet homme leur dit: « Je suis venu comme un fils voir sa mère. » Et c'est vraiment comme cela qu'il va faire les choses. Il fera encore des kilomètres tous les jours. Nous n'en revenons pas de voir la vitalité, la force avec laquelle cet homme de 79 ans se donne et se livre à tous. Il salue en cours de route des milliers de personnes rassemblées sur son chemin. On voit cela. Ensuite, il va se rendre à la cathédrale. C'est toujours ce que le pape fait. Il est évêque de Rome. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il a dormi à l'Annonciature. C'est son représentant, le nonce. C'est son ambassadeur spirituel, le nonce. Mais un évêque va voir l'évêque du lieu. Alors, où se trouve l'évêque du lieu? Bien sûr, à Mexico, mais le lieu particulier d'un évêque, c'est sa cathédrale. Alors, le pape va rendre visite à ce cardinal qui se trouve à la cathédrale. Il prend le temps de prier devant l'autel du pardon. Quand on entre dans la cathédrale, je vous en ai parlé, il y a un immense autel. Rappelez-vous le Christ noir, hein, l'histoire du Christ noir, la légende du Christ noir, couronné. Je vous en ai parlé, alors ça se trouve là. Alors le Saint-Père va prier longtemps devant cet autel qu'on appelle l'autel du pardon. La grande rencontre au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe sera la célébration de la messe. Alors c'est le cœur, c'est vraiment le cœur du pèlerinage du pape. Je suis venu comme un fils qui vient voir sa mère. Alors, des milliers de personnes sont rassemblées. au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe. Et c'est une émouvante célébration. Le président sera présent, vous savez. Il est présent à la messe du pape. L'homélie est extraordinaire et nous place chacun comme Juan Diego qui ne valait rien. C'est ce que dit le pape, il ne valait rien. Il le disait à la Vierge devant sa demande de construire un petit sanctuaire. Alors le pape nous a tous placés en silence devant la Vierge, la mère qui écoute nos silences, nos peurs, nos détresses et notre espérance. Je vous propose maintenant la lecture en continu du livre de Serge d'Alins, La couronne de pierre, qui nous plonge dans l'univers des persécutions des premiers chrétiens.
Lève-toi, il est l'heure.
Déjà ? Mais j'ai encore sommeil.
Lève-toi, Tarcissus. Tu n'as pas honte à ton âge. Sylvia est déjà prête, ou presque.
Le jour pointe à peine, affranchi par le père de Lucius Valerius, le vieux Phidias n'a jamais voulu quitter la famille. Tarcissus l'aime comme un vieil oncle, et naturellement ne néglige aucune occasion de le taquiner, voire même de le faire enrager. Quand Phidias lui parle en grec, il répond en latin, et inversement, car il use indifféremment des deux langues, comme la plupart des garçons de son âge et de son rang. Enfin, le voici debout, qui chausse ses sandales. Phidias lui présente serviette propre et pot d'eau froide. Il s'asperge le visage et les mains. Il se rince la bouche, ôte sa tunique de nuit, en passe une propre, se parfume, se peigne, met un foulard autour de son cou, enfile une pèlerine et va embrasser ses parents. Il part avec Sylvia, accompagné de Phidias qui porte les écritoires et les tablettes. Chemin faisant, on s'arrête chez le boulanger pour acheter gâteaux et petits pâtés. Le soleil paraît enfin lorsque Tarcissus et Sylvia pénètrent dans deux écoles proches l'une de l'autre. Tarcissus a été inscrit dans le meilleur établissement de Rome, celui fondé jadis pour les pages impériaux, et que fréquentent aujourd'hui, outre les pages, des fils de sénateurs, de chevaliers, de gens importants ou de riches barbares en ambassade à Rome. Les maîtres, eux, sont grecs. Tarcissus prise peu la grammaire, davantage le calcul, mais prend un plaisir extrême à l'explication des classiques. Le vieil Homère et Virgile sont ses auteurs favoris. Et puis Plaute, Ovide, Lucain. D'historien, il ne connaît guère que Salluste, car César, Tacite et même Tite Live demeurent presque ignorés. Quant à la morale et l'éloquence, Cicéron d'abord, Caton ensuite, sont naturellement en tête du programme. Ce matin, le maître compare le héros grec au héros latin. Mais la complaisance qu'il manifeste envers Achille n'est pas du goût de tous.
« Ce fils de roi n'en faisait qu'à sa tête !»
proteste Tarcissus.
« En pleine bataille, sous prétexte qu'il vient de se quereller avec Agamemnon, il jure de ne plus prendre part au combat, et se retire sous sa tente pendant 6 mois, laissant les Grecs, ses compatriotes, se faire décimer par l'ennemi. C'est de la désertion !»«
Tout doux !» répond le maître. Lorsque son ami Patrocle est tué par Hector, le bouillant Achille repart à l'assaut et défait les Troyens.
Pour venger son ami, oui. Sinon, il n'aurait pas levé le petit doigt, tandis qu'un Romain pense d'abord à son pays.
Et de rappeler le sacrifice de Régulus, prisonnier des Carthaginois, qui le renvoyèrent à Rome pour traiter du rachat des prisonniers et de la paix, sur sa promesse de revenir en cas d'échec. L'accord ne s'étant pas fait, Régulus, fidèle à sa parole, reprit la mer pour Carthage, où il fut supplicié.
« Voilà un héros, un vrai !»
conclut Tarcissus.
qui a mis en pratique la maxime que nous avons tous apprise de nos pères, « Salus publica suprema lex esto », que l'intérêt du pays soit notre loi suprême. « Bien sûr, accorde le maître, mais aujourd'hui, combien agiraient de même ? Combien se montreraient aussi attentifs à la volonté des dieux que leurs ancêtres ? Jadis, dit un fils de sénateur, les Romains honoraient tous les mêmes dieux. Maintenant, il y a tant d'étrangers dans la ville que nos dieux sont parfois moins honorés que les leurs. Et les chrétiens ? Fait Tarcissus. Les chrétiens ? Ils prétendent n'adorer qu'un seul dieu, mais c'est tantôt un poisson, tantôt une tête d'âne. Où as-tu pris ça, Flavius ? C'est un garçon d'une quinzaine d'années qui vient d'intervenir, l'un des plus calmes et des plus studieux de la classe. Mais l'autre insiste. « Tout le monde le sait, Philippe. Serais-tu seul à ignorer que le nouveau chrétien doit tuer un enfant et manger sa chair ? C'est une infâme calomnie. Ah ça ! En serais-tu par hasard ?»
C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron. Thank you.